Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Il est midi 10, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre magazine du midi sur Fréquence Mistral. Nous sommes mardi 11 février et aujourd'hui nous allons parler aléas naturels, gestion des risques et des crises. Les catastrophes naturelles font partie de l'histoire de notre territoire. Pour n'en citer que quelques-unes, nous pouvons parler des inondations dans la vallée de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes en 2020, des feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône, à Vitrolles en particulier en 2016. En 1957, de fortes pluies ont entraîné des crues et des inondations dans le Queyras, ou encore en 1909, dans les Bouches-du-Rhône encore, un séisme qui a détruit de nombreuses habitations à Lambesc et fait de nombreuses victimes. Mais avec le réchauffement climatique, elles sont et seront amenées à devenir plus fréquentes et de plus en plus fortes. Inondations, sécheresses, incendies, crues, avalanches, elles peuvent prendre plusieurs formes. Récemment, le 1er décembre 2023, nous avons vécu ici, dans les Hautes-Alpes, des crues qui ont entraîné des inondations, des coulées de boue dans le Guy S3. La mémoire du risque a été rafraîchie et des interrogations sont aujourd'hui encore présentes. Comment se préparer à ces aléas et à ces moments de crise, individuellement comme collectivement ? Les communes et les institutions ont des plans de gestion de crise qui sont obligatoires aujourd'hui. Les particuliers, en revanche, sont peut-être moins sensibilisés. Comment être prêt à agir face aux imprévus qui sont propres à la situation de crise ? Et comment rebondir après un tel événement ? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Amandine Crévolin de Penon Conseil, cabinet de conseil dans la gestion des risques. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Vous êtes géographe,
oui,
de formation, spécialisée dans la gestion intégrée des risques naturels.
Oui.
Vous avez travaillé pendant 9 ans en tant que chargée de mission gestion intégrée des risques naturels, justement, dans le territoire du Pays du Grand Briançonnais, qui est aujourd'hui le PETR, mais voilà, qui s'appelait à l'époque Pays du Grand Briançonnais. Et vous vous êtes mis à votre compte il y a 5 ans.
En 2019.
Alors, vous travaillez avec qui ? Seulement les collectivités ?
Non, je travaille, alors oui, essentiellement des collectivités, que ce soit des communes ou des communautés de communes, mais je travaille aussi des fois avec des zones de défense et puis surtout avec tous les acteurs de la sécurité civile, quels qu'ils soient.
Et sur quel territoire ?
Les Hautes-Alpes, bientôt, enfin Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, et pour les zones de défense, c'est plutôt sud-est, lyonnais et ainsi de suite.
Vous restez dans la région en tout cas.
Voilà.
Elle a la sensibilité tenue à vif, pas de doute, la barre est haute, mais pas le choix, jamais dire jamais. Elle a la conscience aiguisée, à la source de tout acte, elle remonte avec ou sans tact, isole le sens, en extrait l'essentiel. Elle a la douleur érigée en étendard tenu correct et exigé. Fais gaffe, faut pas déconner avec tout et n'importe quoi, c'est pigé. Elle monte à l'assaut dans tous les sens du terme, et si douce à l'épiderme, bah allez pas si tu penses en termes de sexe faible ou fort, encore un effort. Elle a des idéaux vertigines, des montagnes d'envie, des tas d'idées pour améliorer la vie. Parce qu'à part elle, personne n'y pense. Elle a des idéaux vertigines, et moi ça m'éblouit. Je kiffe cet appétit imparable, insatiable, inaltérable. Elle part à la recherche de son identité, dans les bas-fonds là où ses sœurs sommeillent, un sommeil long, de temps de vie effacée, consentante et forcée. Elle, de l'admettre, forcée de reconnaître en certain le talent certain de séparer les ailes des îles, par la force et le poids de leur attribut viril, versée dans l'art et la manière de formuler tout ce qui touche les tabous accumulés, les non-dits en vigueur, principe caché de l'aigreur. Elle ne se fait pas que des amis, car ainsi va la vie. Elle aime alors, dans son malheur trouvé, quand tout est vain, tout semble arrêté, le réconfort de l'âme sœur à mes côtés, de l'âme sœur à mes côtés. Elle a des idéaux vertigines, des montagnes d'envie, des tas d'idées pour améliorer la vie, parce que par elle, personne n'y pense. Elle a des idéaux vertigines, et moi ça m'éblouit, je kiffe cet appétit imparable, insatiable, inaltérable. la sensibilité tenue à vif. Pas de doute, la barre est haute, mais pas le choix, jamais dire. Jamais elle a la conscience aiguisée à la source de tout acte. Elle remonte avec ou sans tact, isole le sens, en extrait l'essentiel. Elle a la douleur érigée en étendard tenu correct et exigé. Fais gaffe, faut pas déconner avec tout et n'importe quoi, c'est figé. Elle marche sur la terre, marche à la recherche de la pierre à lancer, franchit les obstacles à cloche-pied en attendant qu'il lui pousse des ailes pour aller toucher le ciel. Elle a des idées au vertigine, des montagnes d'envie, des tas d'idées pour améliorer la vie, parce que par elle, personne n'y pense. Elle a des idées au vertigine, et moi ça m'éblouit. Je kiffe cet appétit imparable, insatiable, inaltérable. Elle a des idées au vertigine.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 23, vous écoutez Fréquence Mistral, notre magazine à la bonne heure, et nous sommes aujourd'hui avec Amandine Crévolin de Penon Conseil, cabinet de conseil dans la gestion des risques, pour parler prévention, préparation, gestion, alors des aléas naturels, on en a parlé, mais Amandine, vous me disiez que vous ne vouliez pas parler d'aléas, alors pourquoi ?
Alors c'est plutôt sur la notion de risque en fait. Les risques, pour qu'il y ait des risques, il faut qu'il y ait des aléas, donc des phénomènes, des avalanches, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, mais il faut aussi qu'il y ait des enjeux, des gens derrière, des maisons, des routes. Donc moi dans mon travail, je ne traite pas du tout la partie de diminution des aléas, tout ce qui est ouvrage de protection et ainsi de suite, mais je traite vraiment les gens, les enjeux, et en gros comment on réagit quand on a un aléa, quel qu'il soit, qui survient sur un territoire.
Alors justement, de quel aléa, de quel risque parlons-nous pour entrer vraiment un peu dans le détail ?
On parle de tout ce qui est... Alors quand on parle de risque majeur, on parle de tous les aléas entre guillemets, donc les aléas naturels. En montagne, ça va être des avalanches, ça va être des inondations, des laves torrentielles, des chutes de blocs, des séismes. Mais ça va être aussi du coup des aléas peut-être technologiques. Ça peut être des problèmes avec des usines. Alors on n'est pas trop impacté nous dans les Hautes-Alpes, mais voilà, à une échelle un peu plus large. Ça peut être aussi... des attaques quelconques, voilà.
Donc autant naturelles que humaines, même
exactement.
Si nous, là, nous intéressons plutôt à l'aspect naturel, mais il faut avoir en tête que ça peut venir d'ailleurs, ou que ça peut, un événement naturel peut entraîner aussi un événement...
C'est ça, avoir des conséquences.
Des conséquences
Fukushima, par exemple.
Oui.
Fukushima, c'est un séisme avec un tsunami qui arrive sur une centrale nucléaire. Pas que, mais voilà, on voit vraiment les deux qui sont liés.
Les deux qui sont liés. Alors moi, j'allais donner un exemple un peu plus proche et peut-être moins impressionnant, qui était dans le Guillet S3, avec la coupure d'électricité que nous avons eue suite. Alors c'est peut-être plus...
C'est les conséquences,
lié.
Voilà.
D'accord.
Voilà. On n'est pas vraiment... Fukushima, c'était un problème, un aléa naturel qui arrivait sur un... qui a produit un aléa technologique. Et donc, du coup, on avait deux types de catastrophes à gérer, on va dire. Alors que sur le Guy S3, la coupure d'électricité, c'est une conséquence de l'aléa inondation et lave torrentielle.
Et chaque territoire a ses risques naturels ou autres propres,
oui.
Finalement. On ne peut parler que de son territoire.
Après, on a quand même un peu des généralités à l'échelle de la montagne. On aura plus d'avalanches en montagne où il y a de la neige que voilà au bord de la mer. Mais effectivement, chaque commune est propre aussi, puisque dans la notion de risque, comme je disais tout à l'heure, il y a les aléas et les enjeux. Donc, on n'a pas les mêmes choses derrière. On n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes enjeux de vulnérabilité. On n'a pas tous des maisons de retraite, on n'a pas tous des voies ferrées, mais on a tous des gens qui y habitent. Et donc, du coup, on a ces deux choses-là qui se mélangent. Mais oui, chaque commune est spécifique et a, du coup, des risques spécifiques.
Et doit mettre donc en œuvre une gestion de crise ou gestion de risque. Alors, quelle est la différence ? On parle gestion de crise, gestion de risque. Quel est le lien ? Quelle différence ?
Alors, la gestion des risques, elle prend en compte toutes les phases de gestion, aussi bien la prévention, avec l'anticipation, les plans de prévention des risques, qu'on appelle les PPR, se préparer à un événement, mais aussi diminuer l'aléa, faire en sorte qu'on mette des ouvrages de protection pour protéger. Voilà, toutes ces réflexions-là, elles sont en prévention. Ensuite, il y a la gestion de crise. Moi, j'aime bien parler plutôt de gestion d'un événement de sécurité civile, parce que finalement, la crise, on se dit toujours « ça m'arrivera pas, je veux pas y penser », et puis « ça n'arrivera qu'aux autres, parce que moi, ça se passera bien ». Or, un événement de sécurité civile, ça arrive plusieurs fois par an, et pour tout le monde. Et du coup, l'idée, c'est de se dire bah, comment on gère les choses pour que ça ne devienne pas une crise, on va dire. Et après, dans la gestion des risques, il y a la dernière phase, qui est le retour à une situation acceptable. Moi, j'aime bien utiliser ces termes-là plutôt que retour à une situation normale, parce que qu'est-ce que la normalité ? Et en même temps, si c'est pour revenir à la même situation que celle qui nous a posé le problème...
Peut-être pas l'idéal.
Voilà, on va peut-être se repositionner. Donc voilà, et avec le retour d'expérience derrière, qui est très important pour revenir à la phase de prévention, c'est vraiment un cycle perpétuel pour faire en sorte que ça se passe le mieux quand ça reviendra. C'est vraiment ce principe-là qu'on garde en tête.
D'accord. Donc on va aujourd'hui plutôt parler de la gestion de risque et entre autres donc de la gestion de crise, mais on va en parler plus largement. Vous dites que toute commune, à un moment donné, sera amenée à faire face à un risque sur votre site, de votre cabinet de conseil. Pourquoi ?
Parce que, en fait, ça, c'est juste regarder ce qu'il y a autour de soi. On va dire qu'un événement de sécurité civile, plusieurs fois par an, ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on a une inondation chaque année sur chaque commune, mais chaque année, les communes, elles ont à gérer une pollution de l'eau, des naufragés de la route, et ou une coupure d'électricité, et ou une canalisation qui explose. Donc, en fait, c'est vraiment le fait de se dire, allez, on se prépare sur ces événements dits courants, qui sont notre quotidien. Hein. C'est comme dans notre vie, en tant que individu, on a toujours des petites choses qui viennent nous embêter au quotidien. Et ben là, le principe, c'est de dire, allez, on se prépare là-dedans, on a toujours quelque chose. Et puis, ce curseur-là, de fait de dire c'est un événement courant ou c'est un événement exceptionnel, ben ça, on verra comment ça évolue au fur et à mesure. Mais en tout cas, on sera prêt à gérer cet événement, quel qu'il soit, quand il arrive sur nous.
D'accord. Donc, quand vous vous aidez à préparer en amont une gestion des risques, finalement, vous incluez tout type de risque, que ce soit le risque minime, entre guillemets, hein, au risque le plus fort.
Complètement. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour l'ensemble des acteurs de se projeter sur un événement courant que de se projeter sur une catastrophe où la probabilité d'arriver, elle est d'une chance sur 100 chaque année. Si on se projette sur quelque chose où on se dit on a une chance sur 10 chaque année que ça arrive, enfin une chance ou un risque, pardon, sur 10 chaque année que ça se produit, bah c'est beaucoup plus facile de se préparer. Et c'est en se préparant aussi à gérer ces petits événements-là que quand on a quelque chose de plus coriace, eh ben on est mieux armé. Alors que si on se concentre que sur quelque chose de catastrophique qui va nous dépasser, ben on sera pas bon. On n'aura pas eu d'entraînement et on sera pas bon en fait.
Alors j'aimerais développer cette partie-là de préparation auprès des collectivités. Peut-être cet aspect-là, c'est celui qui parle le plus, mais auprès d'autres acteurs aussi dans votre travail. Vous intervenez pour les accompagner. Donc, quelles sont les obligations et les attentes des collectivités dans la gestion de risque ?
Alors, il y a tout l'aspect donc réglementaire lié aux aléas, les plans de prévention des risques et ainsi de suite. Donc ça, moi, je m'en occupe pas, mais ça fait partie de notre quotidien. On les prend en compte et c'est des données qui sont importantes parce que ça nous permet de nous préparer sur des phénomènes qui vont arriver. Voilà, on a ces informations-là.
Information, pardon, je vous coupe, sur les risques.
Oui, c'est ça.
Sur les aléas.
Sur les aléas.
Et sur les plans de gestion. Donc, qui sont déjà établis au niveau.
Voilà, qui sont établis par d'autres acteurs. Moi, j'interviens plus sur le fait de dire, ben, comment on va se préparer et comment on va s'organiser quand on aura un événement qui viendra. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, les plans communaux de sauvegarde. On en entend beaucoup parler en ce moment. C'est l'outil du maire, c'est une boîte à outils qui sert à se préparer sur tous les événements de sécurité civile pour se dire bah, comment moi en tant que maire je vais alerter ma population puisque c'est de sa prérogative, comment je vais l'informer et comment je vais la sauvegarder. C'est vraiment de la prérogative du maire, de la sauvegarde de la population. C'est pas du secours, hein, c'est vraiment de la sauvegarde. Donc c'est va être les mettre en sécurité, les reloger, les nourrir, communiquer avec la population, l'alerter, comme je disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment là-dessus qu'on anticipe, mais c'est aussi comment en amont on informe les gens des risques présents sur la commune, de la façon de s'en prémunir, puisque tout le monde a un rôle à jouer dans le modèle de sécurité civile, du citoyen jusqu'à l'Europe. Voilà.
On va essayer de parler de ces deux aspects. Alors, oui. Je reviens plus sur celui d'avant, la préparation des communes, les exercices, proposer des exercices.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels sont-ils?
Alors, les entraînements ou les exercices qu'on met en place, j'utilise les deux termes, parce que ça parle plus exercice, même si pour moi, dans l'idée, c'est vraiment un entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais points. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les collectivités, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que j'ai des communes qui ont 100 habitants, comme il y a des communes avec plusieurs milliers d'habitants, voire des communes de stations de ski qui peuvent accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Comment on fait quand on a un événement qui arrive? Est-ce qu'on a des signaux faibles qui vont nous permettre d'anticiper pour se tenir prêt si jamais on a un événement? Et puis quand l'événement est là, comment on fait pour le gérer, pour que ça se passe pour le mieux? On fait des exercices sur tous les sujets qui peuvent arriver. Ça peut être, sur le dernier mois, j'en ai fait sur des feux de forêt, sur des inondations, sur des transports de matières dangereuses, accidents de transport de matières dangereuses, ou sur les naufragés de la route, par exemple.
C'est vous qui les choisissez?
Oui. Je l'ai choisi et je me base sur des phénomènes qui sont le plus crédibles possible. C'est-à-dire que j'aurais jamais pensé à faire un avion qui tombait sur les Alpes de Haute-Provence. Malheureusement, la réalité nous a rattrapés là-dessus. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire la probabilité que ça arrive, sur quel phénomène je pars. Donc, je regarde ce qui se passe en France. Je m'appuie beaucoup sur les partages d'expériences. Je passe beaucoup de temps avec les communes à discuter avec elles pour savoir ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles ont eu à vivre aussi quand il y a eu un événement. Et après, ça, le but, c'est de le faire partager au plus grand nombre pour pouvoir se préparer au mieux pour les prochains événements.
D'accord. Et donc, une fois que vous avez identifié, vous les faites s'entraîner.
C'est ça.
Donc, vous mettez à l'épreuve leur plan de gestion?
Oui, alors elles n'ont pas forcément toujours un plan communal de sauvegarde. L'idée, c'est plutôt vraiment de se dire, le niveau d'entraînement, en fait, il va être fluctuant en fonction de ce que la commune a. C'est-à-dire que on peut mettre en place, c'est vraiment une notion pédagogique. On est vraiment dans un contexte pédagogique. Et l'idée, c'est de dire qu'une commune, elle n'ait aucune expérience, enfin en tout cas, elle n'ait pas de plan, elle n'ait pas réfléchi à ça, ou une commune qui ait l'habitude parce qu'elle a eu des événements à gérer, ou bien parce qu'elle fait régulièrement des exercices. Dans tous les cas, on a une montée en compétences possible de l'ensemble du dispositif de sauvegarde, avec les gens, comment on fait pour les travailler entre eux, pour les faire travailler entre eux, pardon, comment on fait pour que ça soit plus fluide, pour que tout se passe mieux, pour que toutes les phases, tout ce qui dépend d'elles, se passe mieux. Et ça me permet aussi, derrière, de les accompagner pour leur rappeler, de dire, ça, c'est de votre compétence en tant que maire, ça, c'est pas vous. Bien faire la distinction entre secours et sauvegarde, mais aussi, à chaque fois que je monte un exercice, moi, je fais le tour de l'ensemble des acteurs qu'il y a sur le territoire. C'est-à-dire, s'il y a une école, je vais proposer à l'école qu'elle joue son plan particulier de mise en sûreté. C'est un plan qui permet à l'école de se préparer en gestion de crise. S'il y a une EHPAD, on va proposer de jouer leur plan à eux. S'il y a une piscine, on va jouer leur plan aussi. Et ainsi de suite. Et le but, c'est que chacun, en fait, ça s'articule et que ça soit le plus fluide possible. Et qu'on se retrouve pas avec des choses ahurissantes où on met tout le monde dehors en attendant que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne les chercher. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de cohérence. Et moi, je le vois souvent comme quasiment du team building. Donc vraiment un travail d'équipe et de dire chacun a ses forces. Il faut placer les gens au bon endroit pour les accompagner au mieux, pour qu'ils soient le plus prêts. Et comme on part d'un événement courant ou un peu plus que le courant, ça leur permet d'être prêts pour leur vraie vie derrière, quoi.
Oui, pour le jour où
ça
arrivera. Et donc, vous mettez autour de la table plein d'acteurs du territoire que vous faites travailler sur ces plans-là, in situ, entre guillemets,
hein,
puisque face à un événement que vous avez vous amené. Et c'est très opérationnel, alors. C'est
complètement
très concret. C'est,
complètement. Il y a des faux appels. En fait, je m'appuie réellement sur le cheminement de l'information, mais aussi sur les actions qu'il va y avoir. Donc, on est sur des temporalités à peu près similaires, même si on les compresse un peu pour que ça rende le temps de l'exercice. Mais il va y avoir des faux appels au standard et des fausses informations qui vont arriver. En fait, en tout cas, des informations exercices qui vont arriver. Et qui vont arriver par différents vecteurs, soit par les pompiers, soit par les gendarmes, soit par l'école, soit par la population. Et le but, c'est que chaque situation qu'on amène, donc avec ces faux appels-là, ça met la commune face à une situation de dilemme. C'est des dilemmes qu'elles vont se retrouver à être confrontées, enfin sur lesquels elles vont devoir gérer dans la vraie vie ce genre de choses. Et ça, c'est aussi l'expérience de la vraie gestion de crise, où on se dit, voilà, grâce à ça, moi j'ai les informations de se dire, là sur cette gestion de crise, il y a eu telle et telle information, qu'est-ce que j'en fais et je partage ça aux autres.
Et qu'est-ce que vous observez? Vous avez eu pas mal de demandes. D'ailleurs, j'avais une question, est-ce que vous avez eu plus de demandes depuis, dans le territoire des Hautes-Alpes, depuis qu'il y a eu des incidents? Non, pas forcément.
Non, alors même si maintenant c'est surtout que les exercices sont obligatoires depuis la loi de consolidation du modèle de sécurité civile, ce qu'on appelle la loi Matras, depuis 2021, les exercices sont obligatoires. J'ai pas forcément eu plus de non.
D'accord. Et donc vous observez dans ces exercices des comportements ou des dilemmes qui posent plus de problèmes que d'autres ou pas, ou des comportements qui reviennent régulièrement?
Alors c'est assez variable, c'est très rigolo parce qu'on a effectivement des choses très similaires et des choses qui sont complètement différentes. Des problèmes qui sont quasiment existentiels pour certaines communes ne sont qu'un épiphénomène pour d'autres. Donc ça c'est assez difficile. Je peux pas dire quelque chose de généralistes. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est vraiment l'inquiétude des maires de faire au mieux pour la population. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment prégnant et ça, faut pas qu'on l'oublie. Et je trouve qu'on le dit pas assez souvent, mais il y a vraiment cette volonté globale de la part des communes, des maires, des élus d'une manière générale, mais aussi des agents qui travaillent au sein de ces communes, de faire au mieux pour la population et pour le bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours entendable par tout le monde. Donc c'est pour ça que, quitte à faire ça, il faut faire ressortir quelque chose, je dirais ça. Voilà.
D'accord. Et justement, on parlait de l'information des maires. Enfin, en tout cas, c'est une des missions du maire d'informer. Alors, comment on informe? On peut imaginer les petits panneaux, pour diriger, pour aller se mettre à l'abri, mais il doit y avoir plein d'autres formes.
Alors, il y a les outils réglementaires comme le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est quasiment obligatoire sur une très grande partie des communes, qui a pour but d'informer les citoyens des risques présents sur la commune et des manières de s'en prémunir. Donc il y a ça, il y a plein d'informations préventives diverses et variées. Le maire, il a une obligation de faire une information préventive tous les 2 ans à minima, et ça peut être hyper large. Ça peut être
sur les risques.
Oui, sur les risques.
Et sur les manières de gérer les risques
Oui, on va y répondre à l'intérieur aussi. Il va y répondre à l'intérieur. L'un ne va pas sans l'autre d'une manière générale. Enfin, moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, on va faire dans ce genre-là une semaine de commémorative, on va dire, pour les 30 ans de la crue du Besse à la Salle des Alpes, qui était une crue centenale. Donc centenale, c'est une chance sur 100 chaque année que ça revienne. Cet été, sur une semaine. Donc ça, c'est de l'information préventive, par exemple. Voilà, sur les manières de s'en prémunir, comment on anticipe les choses, et ainsi de suite.
Les citoyens viennent?
C'est
obligatoire?
Non, c'est pas obligatoire. Les réunions publiques, on sait que ça ne marche pas. Ça c'est un fait, tout le monde dit oh oui il faudrait faire une réunion, mais personne ne vient jamais, donc on en fait quand même des fois pour dire on l'a proposé aussi. On essaye de faire d'autres choses, on essaye de faire par exemple des parcours d'interprétation sur les risques avec des panneaux, on essaye sur Serre Chevalier, on travaille avec l'Office du Tourisme, où on organise une dizaine de visites chaque été, qui est financée aussi par la Comcom du Briançonnais, qui permet de parler des risques d'autres façons. Je pense réellement qu'il faut intégrer les risques dans une démarche plus globale. Si on parle que de ça, moi ça me passionne, alors j'irai, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc on l'intègre dans quelque chose de plus large. Et puis c'est aussi aux citoyens là de se prendre par la main et de se préparer.
De se responsabiliser.
Exactement. Ce qui est quand même un peu à l'envers de nos sociétés actuelles, où on parle de dire oui, on va avoir de plus en plus de risques. Alors oui, on va avoir de plus en plus d'événements très probablement avec le changement climatique, mais on est aussi de moins en moins prêt parce qu'on attend qu'on nous prenne par la main pour tout. Et là, en termes de risque, c'est, en termes d'événements, c'est juste pas possible, en fait. Dans la réalité, vous aurez jamais un pompier, un gendarme qui viendra vous prendre par la main au bout de 3 minutes pour vous expliquer quoi faire. C'est pour ça qu'il y a des choses qui existent, comme le kit 72 heures, qui a pour vocation à dire aux gens, est-ce que vous êtes en capacité de rester 72 heures chez vous, par exemple, sans eau et sans électricité? Donc, est-ce que vous avez tous de l'eau potable? Alors, sur nos territoires où on boit tous l'eau du robinet, ben, il y a personne qui a de l'eau en bouteille. Est-ce que vous avez tous un moyen de alimentaire? Alors, tout le monde me dit, oui, j'ai des pâtes. Oui, enfin, les pâtes, quand on n'a plus d'électricité, voilà, c'est un peu long à manger ces pâtes-là sèches. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire 3 jours d'apéro ou 3 jours de goûter, vous faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est de vous dire, vous êtes 3 jours autonome chez vous. Et aussi se dire, là, on me demande de partir de chez moi. Qu'est-ce que je prends? Donc, c'est peut-être préparer un sac dans lequel on met l'essentiel pour pouvoir partir. Et ça, c'est valable. On parle toujours de dire, oui, mais moi, j'habite pas à côté d'un cours d'eau. Oui, mais potentiellement, votre maison, elle peut brûler aussi. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, pour moi, qu'est-ce qui est très important dans ma maison? Il y en a, ça va être des photos, il y en a, ça va être des bijoux, il y en a, ça va être des livres. Ben, vous les regroupez à un endroit. Et si on vous demande de partir, enfin, si on, ouais, parce que c'est ça, on vous demande de partir, vous partez avec tout de suite, rapidement, quoi. Sans aller faire tout le tour de la maison.
Ouais. Alors justement, on va reparler de tout cet aspect individuel de responsabilisation. C'est une bonne transition. On écoute juste tout de suite une petite musique pour une pause musicale. Si t'étais là, de Louane.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir. Pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des... T'étais là. Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures.
C'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et nous sommes en direct de Briançon dans le Mag du Midi avec Amandine Crévolin de Penon Conseil. Nous parlons avec elle de gestion des risques et gestion des crises. Nous avons parlé notamment de la préparation collective, donc des collectivités. Et nous avons légèrement, juste avant cette petite pause musicale, parlé de ce que nous pouvons faire individuellement, de la responsabilité en fait des citoyens et citoyennes. Donc on parlait d'un kit de survie de 72 heures, enfin le kit à emporter si on nous demande d'évacuer, et aussi ce qu'il faut avoir si on doit rester 3 jours à la maison parce qu'on est bloqué. Alors sur ces 3 jours, pourquoi 3 jours déjà?
Parce que globalement, on estime quand même au bout de 3 jours, vous aurez quelqu'un qui viendra vous voir, soit pour vous évacuer, soit pour apporter quelque chose. Mais globalement, ces 3 jours-là, c'est la moyenne.
Ouais, où on doit rester voilà, chez soi et
globalement.
On peut survivre. D'accord.
Sauf événements très, très, très exceptionnels, par exemple Mayotte en ce moment. Mais du reste, voilà, sur la majorité des événements, c'est un peu le quota sur lequel voilà, on vous aura évacué si jamais c'est nécessaire.
Donc tenir 3 jours, c'est l'objectif.
Voilà, tenir 3 jours.
En nourriture, alors on parlait voilà des pâtes, mais sauf que s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a pas de gaz,
c'est
comment
ça.
On fait ?
Exactement.
Donc, plutôt de quoi manger directement.
Parce qu'en fait, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens, on n'aime pas trop dire c'est donner un menu, mais c'est plutôt de dire vous faites comme vous voulez. C'est juste qu'il faut anticiper le truc. Donc par exemple. On peut avoir des gens qui font du camping et qui ont du coup un camping gaz. Très bien. Est-ce que vous... Donc là, pour le coup, les pâtes sont crédibles, même s'il faut de l'eau pour les faire chauffer. Donc il n'y a pas vraiment une recette. Mais voilà, c'est le fait de se dire, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité. Est-ce que je veux avoir un moyen de chauffe ? Ça veut dire que c'est un choix aussi personnel, hein, de dire, ben non, moi, il me faut absolument un moyen de chauffage, ou non, ça va bien se passer, j'ai beaucoup de duvet. Voilà, donc c'est à vous d'anticiper. De vous ouais. projeter.
Et donc projeter nourriture, froid ou chaud.
Oui.
Enfin bon, chaud, difficile peut-être d'anticiper, mais. Et eau.
Eau, et puis après il y a les papiers essentiels aussi. Ça c'est un peu en lien aussi avec le kit qu'on va avoir sur l'évacuation surtout. C'est de se dire, bon ben, est-ce que je mets tout sur une clé USB ? Est-ce que mes papiers essentiels d'assurance, le petit carnet avec tous les mots de passe, ce genre de choses, on ne le mettrait pas dans un sac à dos sur lequel on peut partir ? Dans ce kit 72 heures, il y a aussi comment je reste connectée pour avoir de l'information. Parce que les téléphones, il va, si on n'a plus d'électricité, on va très vite tomber et puis on sait que les réseaux ça tombe très rapidement. C'est aussi, on en entend beaucoup parler, mais c'est une radio à piles
pour
exactement pour écouter la radio, pour pouvoir avoir les informations si nécessaire.
Et les médicaments peut-être ?
Les médicaments, ça peut être les jeux aussi hein, pour des enfants, les doudous sont essentiels. Ça peut être aussi la nourriture des animaux, parce que les animaux prennent de plus en plus de place dans notre vie, donc c'est ça aussi. C'est vraiment s'anticiper et de dire, bon ben voilà, j'ai 3 jours à la maison, dans des situations peut-être un peu particulières, comment je vis bien à ce moment-là.
Alors personne ne le fait aujourd'hui, enfin très peu j'imagine, là je l'entends.
On rabâche énormément, ça fait partie de notre travail de faire de l'information préventive, de le redire, de le redire. Alors ça dépend des territoires, hein. On a des territoires où c'est un peu plus facile quand vous habitez au fin fond d'une vallée alpine ou des Alpes-Maritimes, naturellement on va avoir plus de choses finalement... C'est plutôt les gens qui sont en ville qui vont avoir moins cette habitude-là parce que c'est l'habitude d'avoir la consommation facile à proximité. Mais non, ça doit toucher tout le monde. Et finalement, tous les gens avec qui le font, avec lesquels on... Parce que petit à petit, à force de leur casser les oreilles avec ça, on a quand même des évolutions. Les gens disent « Ah, bah ça m'a permis d'attendre là parce que j'étais malade ou là parce que ben il y avait beaucoup de monde sur la route, là on a eu des conditions de circulation compliquées donc je n'ai pas eu à bouger. Voilà, ça, petit à petit on arrive quand même à faire bouger les choses.
Donc là on a parlé beaucoup de prévention, de préparation qui est quand même le gros hein, puisque
oui.
Je pense que le but c'est aussi de bien se préparer de ce que vous dites. On va quand même rapidement dans la fin de cette émission parler du moment de la crise et de l'après. Alors là il y a la crise. Imaginons tout le monde est préparé ou pas, mais en tout cas, voilà, on est dans la crise. Quel comportement avoir individuellement ? On a parlé déjà aussi un peu collectivement, il y a des plans qui existent, il faut les appliquer. Individuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On entend parler d'une inondation, d'un feu. Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, on a tendance à dire déjà, on suit les consignes qui nous sont transmises. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est par exemple, si on vous demande d'évacuer, c'est pas plaisir qu'on le fait. Enfin, ça fait vraiment suer tout le monde de vous évacuer parce que ben après derrière, il faut gérer les gens. Ça fait plaisir à personne de vous mettre dans une salle polyvalente et vous faire dormir sur des lits picots, sur des lits de camp en tout cas. Donc ça nous fait pas plaisir. Mais quand on le fait, il faut le faire. Donc ne faites pas vos Français de base quand on vous demande quelque chose. Merci de respecter la consigne.
Sans l'expérience.
Oui. Après, l'idée, c'est de se dire, bah, on se met en sécurité. C'est ouvrir les yeux, regarder ce qu'il y a autour de vous. Sur les inondations, on préconise beaucoup de monter dans les étages plutôt que d'évacuer. En France, on a tendance à dire, en fait, on se met en sécurité chez soi et on évacue sur ordre.
D'accord.
Voilà, on est plutôt là-dessus. On peut se confiner chez soi. Alors, confiner, c'était un terme très galvaudé depuis 2020. Mais quand on vous parle vraiment de calfeutrement, par exemple, c'est vraiment boucher les aérations et ainsi de suite. Et puis sinon, ça peut être se confiner chez soi. Ça peut être de se dire, je monte au deuxième étage et je reste au deuxième étage.
Et les informations, elles sont données donc par la radio, éventuellement les réseaux sociaux si on peut encore se connecter.
C'est ça. Les applications mobiles des communes.
Il y a des applications mobiles.
Oui, ça fait partie du rôle du citoyen aussi, hein, de s'informer sur les applications mobiles qu'il y a sur la commune. Ça peut être Iliwap, ça peut être Pano Pocket, ça peut être Intramuros. Ça dépend de quelle application a pris votre commune. Donc, vous tenir informé. Vous allez peut-être aussi recevoir un message de ce qu'on appelle FR Alert, qui est un dispositif à l'échelle nationale qui envoie des messages sur tous les portables d'un secteur. Il y a aussi les sirènes. Alors, la sirène, le signal national d'alerte, c'est 3 fois 1 minute 41 en son modulé. Et là, ce qu'on demande aux gens, c'est de se confiner.
Donc c'est ça que ça veut dire.
Exactement. Tout le monde dit, oh tiens, c'est le premier mercredi du
mois.
Ah bah non. C'est peut-être qu'il faut faire quelque chose.
Alors, si ça tombe le premier mercredi du mois, par contre, c'est difficile.
À midi, c'est très compliqué. Ouais. Mais ça serait quand même vraiment pas de chance. Ouais. En tout cas, il y a plein de moyens. Et puis, à un moment donné, c'est là où je disais de se prendre par la main. C'est regarder autour de vous, en fait. À un moment donné, s'il y a de l'eau qui coule devant chez vous, s'il y a de la fumée qui est autour, c'est ouvrez les yeux et je vais pas dire reconnectez-vous à la nature, mais juste regardez votre environnement, en fait, tout simplement.
Mais n'allez pas voir les voisins pour leur dire qu'est-ce qui se passe.
Non, n'allez pas chercher votre voiture. Ça, c'est un gros problème.
Les enfants.
Alors, les enfants sont en sécurité.
Non, c'est délicat.
C'est très délicat. Surtout quand, après, on en a, on se dit qu'il faut. C'est très difficile à faire, mais ils sont en sécurité à l'école, vraiment. Ils s'entraînent plusieurs fois par an, là-dessus. La voiture, on la laisse au garage. On va pas la chercher. On a beaucoup de morts en France à cause de ça. Des gens qui vont chercher leur voiture. Et c'est pas parce que vous avez un gros 4x4 que vous pourrez passer sur une route qui est inondée. Une voiture, ça flotte à partir de mi-roue. Donc autant vous dire que ça flotte très très rapidement. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Donc restez chez vous, restez en sécurité. Si vous n'êtes pas chez vous, mettez-vous en sécurité à un endroit qui semble sécure. N'allez pas faire des photos, même si ça c'est très instagrammable et ainsi de suite. Ne faites pas ce genre de choses, restez loin des cours d'eau par exemple et respectez les consignes.
Et après, quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Il y a encore de l'eau dehors, quand est-ce qu'on sait qu'on peut sortir?
Et ben là, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, c'est très difficile de vous donner une recette systématique. Regardez ce qui se passe autour de vous. S'il continue à pleuvoir, ça sent peut-être encore un peu mauvais.
C'est le bon sens.
Voilà, c'est ça. Et puis même si ça arrête de pleuvoir, on sait qu'il faut du temps pour que la lame d'eau passe. Donc regardez autour de vous. Soyez vigilants, en fait, on s'aperçoit que les gens, souvent, ils sentent quelque chose. Ils le ressentent, et quand on leur dit a posteriori, mais vous l'avez vu, et eux, ils leur racontent de dire, oui, j'ai senti ça, suivez votre instinct là-dessus. Globalement, il y a quand même un instinct de survie qu'il faut retrouver et qui va se mettre en place. Par exemple, si la sirène, elle a sonné, par contre, elle va ressonner pour dire que c'est fini. C'est un son pendant 30 secondes. Suivez la radio, suivez les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, j'insiste, c'est les réseaux sociaux officiels.
Oui.
C'est pas...
C'est pas le voisin qui a juste mis une photo.
Les réseaux sociaux officiels. Et puis, du coup, les applications mobiles, vous aurez des messages aussi, par exemple, qui viendront. Il y aura du porte-à-porte. Oui. Prenez votre mal en patience.
Finalement, le lien se recrée à la fin de la crise, entre guillemets. On se confine, sauf si on a été confinés tous ensemble dans un lieu commun. Mais ce moment-là de reprise de lien, c'est le moment à la fin où on peut rebouger, retourner voir des gens.
Oui, et puis après, on viendra vous dire, c'est bon, vous pouvez sortir de chez vous. Ça sera la commune, ça sera les pompiers, ça sera les gendarmes, ou ça sera dit, en tout cas. Voilà.
Et quand c'est fini, c'est pas vraiment fini, on disait, il y a toute la phase post-crise.
Qui est longue, qui peut être très longue.
Qui peut être très longue.
Et très compliquée.
Comment l'appréhender?
Alors, en tant que citoyen, la première des choses à faire, c'est de prendre des photos de votre... Si vous avez été impacté, en tout cas. Puisque c'est pas toujours le cas, qu'on se mette bien d'accord. Voilà. Ça va être de prendre des photos, ça va être d'appeler l'assurance, faire remonter l'information auprès de votre assurance. Si on fait des demandes d'arrêté de catastrophe naturelle et ainsi de suite, il va y avoir des papiers à faire. Donc, voyez avec votre assurance, commencez pas à tout nettoyer. avant d'avoir pris des photos. Si votre, par exemple, si de l'eau est rentrée dans votre habitat, ne rallumez pas l'électricité tout de suite pour votre sécurité. Et déjà, la première des choses, j'ai envie de dire, c'est de, voilà, on se pose. On souffle. Là, une autre démarche plus longue vient en place et c'est un temps beaucoup plus long qui vient derrière. Mais en tout cas, là, les premières choses à dire, c'est voilà, prenez des photos, préparez-vous, remettez-vous de vos émotions, mettez-vous en sécurité pour la suite, trouvez des logements si vous devez être logé, voilà.
Et collectivement, alors ?
Et bien, collectivement, les collectivités font la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toute la phase de nettoyage, toute la phase d'étude pour pouvoir remettre les choses en place. Il va y avoir toutes les demandes de financement, toutes les subventions pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir nettoyer les cours d'eau, par exemple, ou pour pouvoir... Enfin, voilà, tout ce qui est nécessaire.
Ouais, tout ce qui est nécessaire à l'administratif.
C'est ça.
Alors, en une minute, quels sont les critères, indicateurs qui permettent de dire qu'une crise a été bien gérée ou pas, ou ce qui a amélioré? Ça peut se voir, ça?
Oui, alors il y a sans doute des... Effectivement, dans la littérature scientifique, il y en a, bien sûr, hein, c'est très, très critère. Puis déjà, est-ce que c'est une catastrophe, pas une catastrophe? Mais moi, j'ai toujours envie de dire, là, pour le coup, on va revenir au côté humain et pas forcément scientifique. C'est déjà, est-ce qu'on a eu des blessés, des morts, pas de morts? Qu'est-ce qu'on aurait pu... Le but, c'est pas de refaire la crise, de refaire l'événement après. C'est facile, en fait, de refaire un événement, parce qu'on connaît la finalité. Mais c'est tout un travail de retour d'expérience qui est prioritaire. C'est de se dire, bon, avec l'information que j'avais à ce moment-là, est-ce que l'option qui a été choisie semblait être la bonne? Et puis après, c'est beaucoup d'indulgence aussi avec ce qu'on peut ressentir et avoir, de dire on aurait pu faire mieux. Bah oui, mais vous connaissiez la fin du film, donc c'était facile de refaire le scénario initial.
Se remettre donc dans la position dans laquelle ils étaient.
Exactement.
À ce moment-là. Très bien. Merci Amandine Crévolin.
Merci à vous.
Donc je le rappelle, vous avez votre cabinet de conseil dans la gestion des risques des crises, Penon Conseil. C'est la fin du magazine d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h10 dans le magazine avec Nathalie Amanosque. Et bon après-midi à toutes et tous.
C'est quoi la musique?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel?
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama.
Mais dis, papa, la vie, c'est quoi?
Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi.
C'est quoi le remords?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
Accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. Peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir. La vie est là, la vie est là.